France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Jean-François n'est pas là, mais il est avec nous, évidemment, par la pensée ce soir. Pour les informés, vacances, noir, c'est rouge. Pourquoi aux bouchons sur la route viennent s'ajouter les bouchons au guichet dans les gares? Au menu des informés également, le bac 2019. Ça bouchonnait sévère ce matin devant les panneaux des résultats. Tous les résultats étaient-ils là d'ailleurs? Ce bac 2019 sera-t-il un bac égalitaire? Les informer ce soir pour en débattre. Hamda Mostafavi, bonsoir. Rédactrice en chef à Courrier International. Franck Dedieu, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Éric Delannoy, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste, président, fondateur du cabinet Tanzing Conseil. Et Pascal Tournier, bonsoir.
Bonsoir.
Rédactrice en chef adjointe au service actualité de La Vie. Les informer jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur le canal 27. Bonnes vacances donc si vous avez la chance d'en prendre et de pouvoir partir ou de réussir à partir. Journée rouge sur les routes et à Caen, un bison futé des guichets à la SNCF. Les délais d'attente explosent. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a réagi ce matin. C'était sur France Info.
Je pense que beaucoup achètent leurs billets sur Internet. Vous savez que c'est plus de 80% des billets TGV qui sont achetés sur Internet. Mais c'est un service public, la SNCF, et donc ça doit être accessible à tous. On doit pouvoir acheter son billet sur Internet, sur les bornes que vous montrez actuellement. On doit pouvoir les acheter aussi par téléphone. Vous savez qu'il y a un numéro de téléphone, le 3635, qui n'est plus surtaxé depuis le 1er juillet. Et puis, il faut pouvoir arriver au guichet. Manifestement, l'affluence a été sous-estimée. On en a parlé avec le président de la SNCF, et donc il y a des renforts qui vont être mis en place. Moi, je ne peux pas me satisfaire de voir des temps d'attente comme on a vu ces derniers jours au guichet.
Voilà la ministre des Transports sur France Info ce matin. Hamda Mostafavi, on a déjà vu des grands départs en vacances avec des incendies, des pannes électriques, notamment à Montparnasse, à Paris. Est-ce que la SNCF s'est-elle encore transportée des passagers les jours de grande affluence de transhumance?
Oui, on peut pas dire les trains partent, ils arrivent quand même plus ou moins à l'heure, mais c'est vrai qu'on arrive, je pense, au phénomène de saturation d'une politique qui a eu lieu depuis de nombreuses années, qui a consisté à fermer les guichets. C'est vrai que, évidemment, tout comme dans les administrations, tous les services sont voués à se numériser, mais il y a quand même une composante humaine qui reste quand même très important et en fait qui est complètement négligée par la direction de la SNCF, puisque évidemment que pour des questions pratiques ou même pour des questions humaines, parfois on a besoin d'une interaction avec une personne et pas forcément avec une machine. Donc tant que ça
vous semble pas bizarre, vous, qu'au moment où il y a des grands départs comme ça, début juillet, on en arrive à se dire « Ah bah oui, on n'avait pas anticipé ça ».
C'est assez étonnant, d'autant que les modes de consommation ont quand même changé. Les gens sont parfois aussi contraints de ne pas forcément décider à l'avance de quelles vont être leurs vacances. Donc il faut quand même que ce soit pris en compte.
Franck Dedieu.
Oui, vous avez raison, vous compariez avec les incidents, les incendies, mais là, pardon de le dire, c'est quand même prévisible. C'est pas, on s'aperçoit pas que début juillet, les gens partent en vacances, et on s'aperçoit pas non plus qu'il y a 80% des gens qui achètent leurs billets via Internet, mais ça fait quand même 20%, je suis pas très bon en maths, mais il y a quand même 20% de gens mais qui ne l'utilisent pas. Ce sont souvent d'ailleurs les plus fragiles, et on n'y pense pas assez. Donc effectivement, on voit apparaître là des fractures numériques, je pense qu'ils n'ont pas été anticipées par le gouvernement, et c'était pas très compliqué à la différence des incendies où on peut là accuser la SNCF parfois à tort parce qu'il y a quand même des impondérables. Là, pardon de le dire, mais c'était prévisible. Et effectivement, il y a une sorte de prime à la connexion et une sorte de sanction à la déconnexion. Moi, je pense que par-delà cette question de cette fracture numérique en ce qui concerne la billetterie de la SNCF, on voit que finalement, le gouvernement veut répondre à cela avec les maisons France Service, par exemple, où on va se dire, on va mettre tous les services publics là-dedans, tout simplement parce que on a licencié.
Donc on va plus à la gare
alors
pour
on
changer
a pas
son
licencié,
billet.
Pardon, on a réduit les effectifs au fur et à mesure, de degré en degré. On s'aperçoit que on déshumanise, et ma consoeur a raison, on déshumanise le rapport avec un service public. Et pardon de le dire, mais un service public, c'est quand même ça aussi. Il est même contenu dans le nom, service public. Et je crains que ces maisons France Service par-delà les questions de SNCF, parce qu'on parle de la Poste, on pourrait parler de... Eh bien, on est les mêmes problèmes avec énormément de queues, et puis aussi, pardon de le dire, mais c'est quand même aussi un conflit de classe derrière, parce que ça touche quand même 20%, c'est beaucoup, et ça touche les plus fragiles.
Sans doute les
uniquement,
plus fragiles, oui.
Mais pas Pascal Tournier. Juste, moi, je peux vous dire que j'ai vécu l'expérience de ce problème
de
guichet.
Vous ne vous sentez pas fragile.
Je me sens pas fragile. Donc, il y a des différents cas de figure. Par exemple, moi, je vais vous raconter mon vécu. Allez-y. Donc, notamment, j'ai pas pu aller, je suis allée à la gare Saint-Lazare pour acheter des billets parce que j'avais des chèques vacances. Donc, les chèques de vacances, effectivement, ne sont pas numérisés. Donc, la gare Saint-Lazare était apparemment, je sais pas quoi, les guichets ne fonctionnaient pas. Nous avons été ensuite à la gare Montparnasse. Et là, on nous a expliqué que les guichets ne fonctionnaient pas parce que c'était uniquement pour les départs du jour. Donc, moi, j'ai le sens, et qu'il fallait aller dans ces cas-là dans des agences qui sont de plus en plus, dont le nombre est de plus en plus réduit. Donc, je pense qu'il y a un véritable problème d'organisation au sein de la SNCF, d'anticipation, parce qu'effectivement, il y a la question humaine, comme vous le dites très, très justement, mais basiquement, il fallait anticiper. Je crois que c'est là, on voit bien que la SNCF pâtit d'un manque d'organisation et j'ai envie de dire aussi...
Vous avez choisi aujourd'hui pour aller changer ou acheter vos billets?
Non, ça date d'il y a 10 jours.
Ah oui.
C'était quand même assez récent. Et quand j'ai entendu l'information ce matin, j'étais pas du tout étonnée de la grogne qui montait. Je pense que fondamentalement, on voit bien qu'effectivement, il y a une volonté de réduction des effectifs. Et j'ai envie de dire aussi, la loi SNCF qui est passée, soi-disant, elle était censée améliorer le service pour les usagers. Je demande à voir.
Éric Delannoy, ça vous choque, vous?
On rajoute un peu de stress
à ces départs en vacances.
Oui, voilà. Enfin, il faut forcément trouver quelque chose qui est stressant. Moi, personnellement, je pense que ce genre de titre n'aurait pas fait la une il y a 10 ans. Donc, le moindre queue devient insupportable. C'est la faute du gouvernement.
Vous l'avez pas vécu.
Oui, mais bien sûr. Non, mais allez chercher un pass Navigo tout à chaque début de mois à la RATP. Vous allez voir si vous faites pas la queue. C'est exactement pareil. Il y a des queues qui sont en permanence dans certains services publics où effectivement,
là, c'est devant la machine.
On peut se poser la question de savoir pourquoi les services publics se dégradent alors que la dépense publique ne diminue pas. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet auquel il faudra s'attaquer quand même. Et donc moi, ce que je prétends quand même, c'est qu'il faut quand même avoir en tête que cette année, on est particulièrement sur une année d'affluence. Il y a plus de 17% de gens qui partent. C'est au plus haut depuis 15 ans. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi il n'y a pas eu de renfort. En même temps, avoir des renforts qui soient planifiés à l'heure. Enfin, je veux dire, s'ils avaient eu trop de renforts, on aurait dit gaspillage de l'argent public, etc. Enfin, donc... Enfin voilà, je trouve que c'est pas une information.
J'ai pas pu acheter mon billet. Je précise ça quand même. Je n'ai pas pu acheter mon billet.
Finalement, le fin mot de l'histoire, c'est que vous n'avez pas pu acheter votre billet.
Donc c'est quand même un souci.
On va revenir sur ces départs en vacances à 20h10. Le rappel de l'info, c'est avec Léo Téchère.
Un an de prison et 15 000 euros d'amende requis contre 3 anciens dirigeants de France Télécom. C'est la peine maximale pour harcèlement moral. L'ex-PDG, l'ex-numéro 2 et l'ex-DRH de France Télécom jugés pour la série de suicides survenus il y a 10 ans à France Télécom depuis devenu Orange. Une information judiciaire ouverte après les fuites au bac. 4 personnes seront bientôt présentées à un juge d'instruction. 2 candidats qui auraient acheté des sujets de mathématiques pour 1600 euros et un surveillant de 37 ans et sa compagne qui auraient revendu les sujets. Les maîtres nageurs sauveteurs des Landes rappellent qu'il est recommandé de se baigner en zone surveillée. Un touriste allemand de 67 ans est mort noyé cet après-midi sur la plage de Lied-Emix. Cet homme de 67 ans se baignait seul en zone non surveillée. La circulation différenciée reconduite demain à Lyon. Vigilance orange à la pollution depuis avant-hier dans la vallée du Rhône. Concernant Paris, 2000 véhicules ont été verbalisés la semaine dernière pour non-respect de cette circulation différenciée, ce qui représente un peu plus de 12% du total des véhicules contrôlés, selon la préfecture de police. L'Agence internationale de l'énergie atomique convoque une réunion d'urgence mercredi prochain. C'est ce que demandaient les États-Unis en pleine crise avec l'Iran. Téhéran a annoncé la semaine dernière avoir dépassé la limite autorisée de ses stocks d'uranium. Et puis, Novak Djokovic, qualifié pour les 8e de finale de Wimbledon, le numéro 1 mondial, éliminant 4-7 le Polonais Hubert Hurkacz. Le Français Benoît Paire, lui aussi qualifié cet après-midi.
France Info, les informés, Noé Da Silva.
Merci d'être avec nous, les informés, jusqu'à 21h, avec toujours autour de la table Amdam Mostafavi, Franck De Dieu, Éric Delannoy et Pascal Tournier. Un mot encore sur ces départs en vacances. Est-ce que finalement, à vous écouter les uns les autres depuis tout à l'heure, ce n'est pas de notre faute toutes ces queues, toutes ces embouteillages au guichet de la SNCF parce qu'on n'est pas assez rapide pour tout acheter, pour tout faire sur nos smartphones ou nos ordinateurs.
Alors déjà, je pense que être rapide sur les smartphones et passer son temps sur les écrans, je vous rappelle que c'est bien pire que de consommer du papier ou aller à un guichet. Hein, je veux dire, au regard des problématiques écologiques qu'on évoque souvent, donc faut peut-être se poser la question de savoir si il faut pas plutôt avoir un étalement plus important sur une organisation personnelle pour faire en sorte de ne pas devoir subir ces queues-là et de ne pas acheter au dernier moment. C'est-à-dire qu'en gros, avant de mettre la faute toujours sur les mêmes, mettre en place une responsabilité personnelle à laquelle on ne pense finalement jamais.
C'était donc, le sens de ma question.
Mais oui, c'est bien un sûr. Mais moi, je pense qu'il faut appeler la responsabilité sur où est-ce qu'on va, quand est-ce qu'on part, prévoir. Vous voyez, on sait que demain ça va être des queues, pas possible
sur les routes. Pas d'accord.
Non, pas du tout. Moi, je suis pour la liberté, pour pouvoir choisir à n'importe quel moment.
La responsabilité n'est pas contraire à la liberté. Au contraire, c'est l'exercice de la liberté que de pouvoir le faire en responsabilité. Sinon, c'est l'anarchie.
On peut être libre aussi de ne pas prévoir, de partir au dernier moment.
Ah oui, mais alors dans ce cas-là, on se plaint pas des queues dans ces cas-là. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est ça que je veux dire.
Franck de Dieu.
À propos
de nous, de notre responsabilité, finalement, à nous de passer peut-être et d'être plus réactifs sur nos téléphones,
au départ,
sur nos ordinateurs.
Mais au départ, il y a quand même le choix et on peut s'en féliciter. S'il y a la queue pour prendre le train, c'est que les Français se décident à prendre le train.
Ce qui est une bonne nouvelle.
Parce qu'on nous y incite aussi.
On nous incite sur le plan écologique et puis on nous incite, il faut aussi l'inciter sur le plan culturel.
On doit prendre l'avion d'ailleurs, s'il y a une ligne de TGV.
Et puis aussi, les Français ont envie de partir en vacances en France, ont envie de visiter la France, s'aperçoivent que la France est variée, qu'il y a un certain exotisme et que face à la massification touristique à l'autre bout du monde, il y a peut-être mieux et que finalement on prend le train, on se déplace pour être un touriste en France, c'est pas mal pour le patriotisme économique, c'est pas mal aussi pour l'écologie. Donc c'est vrai, on pourrait faire des bilans carbone sur papier contre smartphone, pardon de le dire, mais le bilan carbone, il est quand même train contre avion, et là, il n'y a pas photo.
Le bilan carbone de la France, de toute façon, est globalement positif. Je tiens à le rappeler à chaque fois.
On va passer au baccalauréat. C'était une dure journée aujourd'hui pour de nombreux candidats. Et normalement, c'est la fin du bac, sauf si vous avez le rattrapage. Et évidemment, bon courage si vous êtes dans ce cas-là. Mais ce bac 2019 aura donc été marqué par la grève des notes. Quel en est le bilan? Combien de copies manque-t-il ce soir? Jean-Michel Blanquer était l'invité de nos confrères de TF1.
C'était 50 000 hier soir, puisque c'était le dernier moment de remise hier soir. Et ce chiffre est totalement descendu ce soir. Il est désormais en dessous de 10 000. Pour lundi prochain, les notes définitives qui manquent seront là. Je suis d'accord pour dire évidemment que ça n'est pas une situation idéale, mais nous l'avons géré au mieux et je n'ai eu qu'une pensée, c'est pour les élèves. Si je n'avais pas fait ce que j'ai fait, aujourd'hui, les élèves n'auraient pas eu leurs résultats. Il y aurait eu un véritable chaos provoqué par une toute petite minorité.
Hamdam Mostafavi, finalement, le ministre de l'Éducation l'avait promis, il y aurait des notes pour tout le monde aurait sa note aujourd'hui, il a tenu promesse.
Oui, enfin, surtout, c'est quand même un peu inquiétant de voir qu'il se s'autocongratule de ce qu'il a fait, lui. Alors que bon, si on en arrive là, c'est que quand même, il y a une grogne ce n'est pas la première fois qu'on sait qu'il y a un problème dans l'éducation nationale et une grogne des professeurs. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ce problème, il se pose en France, il se pose dans toute l'Europe. Il y a un problème vis-à-vis des professeurs et de la prise en compte de leurs conditions de travail et des changements. Il y a eu beaucoup de changements faits, peut-être pour le meilleur, peut-être pour s'adapter.
On n'est pas les seuls en France à vivre cette difficulté au quotidien pour les profs.
Voilà, c'est ça. Et peut-être que c'est bien d'avoir changé les programmes, d'avoir fait des modifications, etc. Mais peut-être qu'il y a eu, peut-être dans le discours, ou moins dans la méthode, dans le temps alloué, un manque d'accompagnement.
Franck de Dieu, est-ce qu'il n'a pas raison de se féliciter parce que ce matin, les élèves avaient leur note.
Mais on lui a servi cela sur un plateau. C'est ça l'ironie suprême de l'histoire.
Pourquoi?
C'est que il se retrouve avec, en se disant, finalement, il s'en sort plutôt pas mal. Or, ces 700 profs ou moins apparemment, puisqu'il resterait que 10 000 copies, donc ça fait moins de profs. Eh bien, ils n'ont pas pris en otage le bac, ils n'ont pas pris en otage les élèves, ils ont pris en otage les autres profs. C'est-à-dire qu'on oublie de dire que derrière ce sujet-là, il y a des profs qui ont fait leur travail, qui ont fait leur devoir républicain par rapport au bac, mais mais qui ont effectivement des raisons de s'inquiéter, des raisons de se mettre en grève éventuellement. Je pense par exemple, bien sûr, à la rémunération. Songez qu'en France, les professeurs sont deux fois moins payés qu'en Allemagne. Donc, je parlais d'ironie suprême de l'histoire, c'est que là, on a l'impression qu'il sort vainqueur. Il sort vainqueur par une ultra minorité de profs qui finit par décrédibiliser des profs qui sont en colère, qui ont de raisons légitimes de l'être, et finalement qui ne sont pas entendus et qui passent un peu par pertes et profits avant de partir en vacances. Non, ça a été très mal joué de la part d'une ultra minorité.
Est-ce que vous êtes d'accord avec les communistes qui disent que le ministre de l'Éducation a saboté le baccalauréat 2019, Pascal Tournier ?
Non, moi je dirais, je soulèverais l'idée que ceux qui n'ont pas voulu noter, ils sont quand même allés à l'encontre du code de l'éducation, qui est qu'on ne doit pas, au final, faire pâtir l'élève. Et je trouve qu'aller jusque-là, pour moi, c'est la preuve quand même d'un, effectivement, là je vous rejoins, d'un profond malaise. C'est la preuve aussi d'une impuissance syndicale, alors qu'on peut retrouver d'ailleurs dans d'autres secteurs, hein, c'est pas juste les syndicats d'éducation nationale. C'est aussi le fait que finalement, pour la première fois, on a un ministre qui met en place des réformes et qui ne recule pas. Donc, je trouve que c'est...
Mais qui, finalement, ne négocie pas non plus.
Ne négocie... Alors, je pense quand même qu'effectivement, il faudrait qu'un jour,
ça.
Peut-être,
C'est une question.
Non, je pense que le vrai souci, et là, je vous rejoins aussi, c'est la question de la rémunération des professeurs. Je pense que c'est un chantier sur lequel... Qu'il avait d'ailleurs déjà...
Il l'a annoncé.
Hein, il ne s'est pas du tout remisé au placard. Mais je pense que là, il serait peut-être temps de s'attaquer à cette question-là. Parce qu'on voit quand même qu'il y a un véritable malaise du côté du corps professoral.
Éric Delannoy.
Non, mais enfin, moi, je pense que ce qui est scandaleux, c'est qu'il y a moins de 1% d'une toute petite minorité, une archi-minorité qui cherche à bloquer un système, en fait. Donc, ce qui est d'ailleurs dans la lignée du mouvement des Gilets jaunes résiduels.
Est-ce qu'ils ne sont pas les porte-voix d'autres qui n'ont pas osé ou qui n'ont pas osé respecter le code?
Enfin, aujourd'hui, vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu de grandes manifs étudiantes. Enfin, des manifs étudiantes, on en a connu, hein. En 86, il y en a eu plein. Sur cette réforme-là, il n'y a pas eu de manifs étudiantes pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, les élèves sont satisfaits de cette réforme parce qu'ils voient ce que ça peut leur apporter, en fait. Quand on dit que c'est une réforme à la va-vite, ça a été 2 ans de négociation et 2 ans de concertation avec les profs. Mais maintenant, si vous voulez qu'une réforme se fasse en prenant en compte l'intégralité des minorités agissantes, en fait, rien ne se fait jamais. Parce que c'est pas possible. Une réforme n'est pas un consensus. Une réforme, c'est la recherche d'un bien commun par rapport à une modification de situation. Il y a un certain nombre de constats que tout le monde, sur lesquels tout le monde est d'accord, notamment dans l'éducation, notamment sur les problématiques d'inégalité. Mais, pardon, moi, j'ai lu le tract du SNES-FSU sur les raisons pour lesquelles ils contestaient la réforme, de dire qu'une réforme ne résout pas les problèmes d'inégalité et donc on est contre, enfin, c'est juste ne pas comprendre la réforme.
On va
fait.
Revenir sur
Mais
cette
avec plaisir.
Réforme qui s'annonce notamment pour le baccalauréat à 20h20 sur France Info, le rappel de l'actualité avec Léo Téchère.
Et c'est l'information de la soirée. Bruno Le Maire demande un audit sur l'EPR de Flamanville, le réacteur nucléaire nouvelle génération touché par une série d'incidents pas acceptables selon le ministre de l'économie. Sa mise en route sans cesse repoussée a plusieurs fois entraîné une hausse des coûts. Les premiers vacanciers de l'été nombreux ce soir dans les gares et sur les routes. 1,5 million de voyageurs attendus tout le week-end par la SNCF qui prévoit donc finalement des renforts aux guichets et des gilets rouges dans les halls. Ça se calme maintenant sur les routes d'Île-de-France. Mais ça redeviendra rouge demain selon Bison Futé, orange ailleurs en France dans le sens des départs. Le Conseil de sécurité de l'ONU réclame un cessez-le-feu en Libye, près de 1000 morts et plus de 5000 blessés après 3 mois de conflit selon l'Organisation mondiale de la santé. Le conflit qui oppose le maréchal Haftar et le gouvernement reconnu par les Nations Unies. La finale de la Coupe du Monde féminine de football, ce sera dimanche, États-Unis-Pays-Bas, mais la compétition est d'ores et déjà réussie, le meilleur mondial féminin de l'histoire, même selon le patron de la FIFA, Gianni Infantino. Et puis le départ du 106e Tour de France demain, 176 coureurs au départ de Bruxelles, arrivé dans 3 semaines et 3500 km plus tard sur les Champs-Élysées.
France Info. France Info. Les informés, Noé Da Silva.
Les informés jusqu'à 21h. Merci d'être avec nous avec Hamdam Mostafavi, Franck Dedieu, Éric Delannoy, Pascal Tournier. Sur ce baccalauréat 2019, on va revenir sur la réforme. Mais quand même, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Pascal Tournier, avec des notes provisoires? Quand ce matin, on découvre qu'on a un bac avec des notes provisoires, qu'est-ce qui se passe?
Il y a aussi des notes aussi tirées du contrôle continu. Hein. Il y a plusieurs cas de figure. Hein. Je connais des élèves qui, effectivement, ont un bac avec, par exemple, une épreuve de maths. Bah, c'est le contrôle continu. Moi, je pense que quelque part, c'est déjà presque le bac de 2020, d'une certaine manière. Puisque finalement, vous savez que avec la réforme du bac, le bac va perdre un peu de sa sacralité. On va beaucoup plus s'appuyer sur le contrôle continu. Donc, d'une certaine manière, en fait...
C'est un peu ce qui se passe là.
Voilà. En fait, c'est un peu... Je dis pas que c'est une répétition générale, c'est un peu exagéré, bien évidemment, mais en tout cas... Donc c'est pour ça que je pense
que
du côté des...
Par rapport aux autres,
je pense que du côté des parents, d'élèves... J'ai pas le sentiment qu'il y ait une grogne particulière, qu'il y ait une déception. Finalement, le ministre de l'Éducation nationale a l'opinion publique avec lui.
Mais quand vous parliez d'une inégalité de traitement, mais l'inégalité de traitement, elle est par le fait qu'il y a des gamins qui n'ont pas eu leur note, avant tout. Elle n'est pas sur le fait qu'on cherche à trouver un système alternatif pour qu'ils puissent en avoir. Et maintenant, moi, je voudrais quand même dire une chose, c'est qu'il est étrange de dévaloriser la note de contrôle continu par rapport au bachotage, alors qu'effectivement, c'est un des principes de la réforme, ce qui, pour moi, revient à dévaloriser toute la filière d'apprentissage. Je veux dire, le gamin, il est là pour apprendre pendant toute l'année, il a des notes. La valeur de la note continue, pardon, mais ça a une valeur même plus importante que la valeur d'un simple bachotage. Donc, même philosophiquement...
Certains lycées vont avantager les notes
ça veut dire qu'on ne fait pas confiance aux profs dans ce cas-là. Enfin, il veut dire, faut voir toutes les conséquences qu'il y a au procès d'intention qu'on fait en permanence. On parle de la société, de l'école de la confiance. Je veux dire, il est vrai qu'aujourd'hui les profs sont maltraités, mais c'est une situation qui est héritée depuis 25 ans. Que les profs soient deux fois moins payés qu'en Allemagne, pardon, mais Jean-Michel Blanquer n'y peut rien. Il va ouvrir le chantier, mais il n'y peut rien. Donc qu'il y ait une grogne permanente sur le fait que leur métier est très compliqué, c'est vrai. Il y a aussi beaucoup de défense corporatiste, et pour le coup, j'en parlerai pas ici, mais j'en sais quelque chose.
Voilà, vous en avez trop dit.
Mais non, mais je veux dire, quand on veut essayer de faire bouger l'éducation nationale, même au titre d'une entreprise privée qui veut aider sur l'égalité des chances, puisque c'est un des objets importants de mon entreprise, travailler sur l'égalité des chances, bah on est face à des corporatismes incroyables où on préfère défendre un statut que d'améliorer l'égalité des chances des gamins. Moi, ça, je l'ai constaté de manière très concrète, quand même.
Hamdam Mostafavi, la France qui veut aller vers du contrôle continu pour ce baccalauréat, c'est un peu ce qui se fait à l'étranger?
Oui, c'est vrai que la France avait ses spécificités du bac. Après, c'est aussi un peu... moi, je suis pas totalement d'accord avec mes collègues sur plusieurs points, mais notamment sur le fait que le contrôle continu, c'est valorisé. Mais c'est vrai que tous les lycées ne se valent pas, toutes les situations ne sont pas les mêmes. Le bac, ça avait ce côté aussi d'idéal républicain. On passe tous le même examen et on...
Mais qui était complètement dévalorisé
en même temps. Oui, peut-être.
Les dossiers d'inscription pour les facultés se font bien en amont. Donc, en fait, même plus besoin d'avoir le bac pour...
Ça ne va pas changer pour les années prochaines. Vous aurez toujours un Parcoursup. Alors, effectivement, il y a eu la réforme de Sciences Po qui change un peu la donne, mais on sera toujours sur un baccalauréat qui aura finalement... une valeur assez initiatique. Et de ce point de vue-là, l'idée de l'épreuve nationale égalitaire, voilà. Voire
qui
égalitariste...
Qui restera.
Elle restera, mais avec moins d'importance.
Ben oui.
Eh bien, c'était quand même quelque chose d'extrêmement important et qui garantit une forme d'égalité
trop lourd sur
le territoire national.
Oui,
mais... Alors, il était peut-être trop lourd à organiser et quelque part, il exposait le gouvernement à ce genre de mésaventures de cette année-là. Mais attention quand même, c'est vrai, si vous réduisez cette épreuve nationale, eh bien, vous ouvrez les possibilités d'inégalité entre les territoires. Et c'est vrai qu'après, a posteriori, après le bac, se développe, on le voit bien, de plus en plus, je dirais, de compétition au sens des universités, des écoles de commerce, qui finit, je dirais, par toucher quand même à l'égalité républicaine et surtout à un problème territorial, d'inégalité territoriale.
Madame Moussa Favion, vous
oui, non, mais d'autant qu'il y a aussi, comment dire, des concours après qui sont passés par. Enfin, c'est en gros le bac avait quand même cette vertu, comme le brevet, d'avoir ce moment où on passait un peu ses premiers concours et où on rentrait.
Nous semblait insurmontable.
Ça nous semblait insurmontable, mais ça ne disparaît pas complètement. Il y a cette fameuse grande épreuve.
C'est ce qu'on appelle le parcours initiatique qui passe symboliquement de l'âge enfant à l'âge adulte. Bon. De l'adolescence à l'âge adulte.
Bon, en tout cas, pour ma part, je pense que taper sur la minorité des professeurs, je pense pas que tous les professeurs qui ont fait la grève sont des professeurs qui sont pas impliqués, qui n'ont pas envie, veulent juste pénaliser les étudiants. Je pense que si on en arrive c'est toujours qu'il y a un malaise qui, à un moment donné, n'a pas été écouté, n'a pas été géré, que ce soit par les syndicats ou par
cette réforme du bac.
Mais voilà,
derrière.
Je pense qu'il y a quelque chose, il y a eu toutes les difficultés autour de Parcoursup, il y a quand même un malaise qui commence dès les enseignants de maternelle jusqu'au lycée et à la fac. Donc, une question à se poser.
Les informés continuent, vous avez tous été reçus dans cette première partie. Vous revenez donc dans quelques secondes sur France Info.
Cet été, retrouvez le voyage à Nantes pour une nouvelle déambulation artistique insolite. Sillonnez les rues nantaises le long de la ligne verte à la découverte d'installations, de sculptures, d'expositions et laissez-vous guider par sa programmation inédite. Un parcours singulier au milieu d'œuvres permanentes et de nouvelles créations artistiques pour faire découvrir ou redécouvrir une ville qui n'a pas fini de vous surprendre. Le voyage à Nantes jusqu'au 1er septembre.
Quand il fait chaud, on aime se calfeutrer à l'intérieur, volets fermés. Mais l'air intérieur peut être pollué jusqu'à 5 fois plus qu'à l'extérieur. Alors procurez-vous un ventilateur purificateur Dyson PureCool. Il vous rafraîchira avec de l'air purifié en éliminant plus de 99% des particules aussi fines que les virus pour que vous ne les respiriez pas chez vous. Dyson PureCool. Ventile un air purifié, pas un air pollué. Pour en savoir plus, visitez Dyson.fr. Testé par l'Institut Pasteur de Lille sur le virus H1N1 en septembre 2018.
France Info Météo avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Quel temps demain, Élodie Calac ?
Attention aux orages, parfois forts ce soir et cette nuit sur Pays de la Loire, Poitou, Limousin, soyez prudents. Demain, ce sera instable des Pays de la Loire et du nord de la Nouvelle-Aquitaine vers le Massif central, le centre, les Alpes, l'Alsace, avec des orages parfois musclés, de la grêle, du vent, le tout entrecoupé d'éclaircies tout de même. De part et d'autre, ce sera plus calme, bien ensoleillé, peut-être une ondée orageuse au nord le matin, des nuages bas sur le sud-ouest, juste le matin. Les températures vont rester trop élevées cette nuit, 19 degrés à Paris, à Nantes, 22 à Lyon et Montauban, 24 à Nice. L'après-midi, 22 degrés au Havre, 32 à Paris, Nantes, Strasbourg et Agen, 35 à Lyon, 36 à Montélimar. Plus de nuages pour dimanche, quelques orages encore et beaucoup de chaleur en basse vallée du Rhône.
Merci d'écouter France Info, il est 20h30.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Les infos, Emmanuel Langlois.
Bonsoir Noé, bonsoir à tous. Nous soulager, euphoriques ou déçus, les 743 000 candidats au baccalauréat ont découvert ce matin leurs résultats comme prévu, mais certains résultats provisoires en raison de la grève d'une partie des correcteurs opposés à la réforme du baccalauréat. Nous avons géré au mieux et on a évité le chaos, se félicite ce soir le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Il était il y a quelques minutes sur le plateau de TF1.
C'était 50 000 hier soir, puisque c'était le dernier moment de remise hier soir. Et ce chiffre est totalement descendu ce soir. Il est désormais en dessous de 10 000. Pour lundi prochain, les notes définitives qui manquent seront là. Les notes qui sont données sont celles du contrôle continu. S'il y a une contestation, ça peut tout à fait se vérifier au début de la semaine prochaine, justement, quand il y aura les bulletins définitifs. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait, qu'il est possible de corriger s'il y a eu telle ou telle erreur. Mais normalement, c'est la note du contrôle continu qui a été donnée. Si je n'avais pas fait ce que j'ai fait, aujourd'hui, les élèves n'auraient pas eu leurs résultats. Il y aurait eu un véritable chaos provoqué par une toute petite minorité. Nous parlons de 400 personnes, hein, de 400 personnes sur 175 000 correcteurs.
Jean-Michel Blanquer, ce soir sur TF1, puis le taux d'admis à ce bac 2019 à l'issue du premier groupe d'épreuves est de 79,5% pour le bac général, un taux en baisse de 1,3 point par rapport à l'an dernier. Pour le bac techno, on est à 75,4%, moins 2,2% par rapport à 2018. Et pour le bac professionnel, 75,8, 1,01% de plus qu'en 2018. Bruno Le Maire lui demande d'un audit sur l'EPR de Flamanville après des incidents que le ministre de l'économie juge inacceptables et incompréhensibles. Le 21 juin dernier, l'autorité de sûreté nucléaire avait demandé à EDF de réparer 8 soudures difficilement accessibles de l'EPR, occasionnant de nouveaux retards importants pour ce très coûteux chantier. Deux candidats au baccalauréat, un couple de trentenaires présentaient un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen dans la soirée. Ils ont été arrêtés dans l'enquête sur des soupçons de fraude qui concernent l'épreuve de mathématiques au bac. Un Allemand de 67 ans retrouvé mort noyé sur la plage de Litemix dans les Landes. Il se baignait seul dans l'océan, dans une zone non surveillée. C'est un autre baigneur qui a ramené son corps sur la plage, mais il n'a pas pu être ranimé par les secours. Il est soupçonné notamment d'avoir détourné plus d'un million d'euros de recettes non comptabilisées de ses spectacles. Dieudonné, condamné à Paris pour fraude fiscale, blanchiment ou encore abus de biens sociaux. Le polémiste controversé de 53 ans écope au total de 3 ans de prison, dont 2 ans ferme et 200 000 euros d'amende. Ni ses avocats, ni Dieudonné n'étaient présents à l'audience. Il devrait faire appel. Il est 20h33, les informés, ça continue.
France Info, les informés, Noé Da Silva.
Bonsoir, rebonsoir, merci de nous rejoindre ou d'être resté avec nous. Toujours autour de la table, les informés ce soir, Amdam Mostafavi, rédactrice en chef à Courrier International, Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, Éric Delannoy, économiste, président fondateur du cabinet Tanzing Conseil, Pascal Tournier, rédactrice en chef adjointe au service actualité de La Vie. Alors, c'est une note qui devait rester confidentielle, mais elle a fuité. La République En Marche veut donc liquider le parti socialiste, secret de Polichinelle. Seulement, voilà, le mode d'emploi est maintenant écrit noir sur blanc avec en tête de l'Assemblée nationale. La note est signée du directeur de cabinet du président de l'Assemblée, Richard Ferrand. On écoute la réaction très ironique du sénateur PS Richard Temal qui voit lui, dans cette note du positif. Il était ce matin chez nos confrères de Sud Radio.
Ce qui est prévu par cette note, c'est quoi? C'est aussi la démonstration de deux choses. Un, c'est que le parti socialiste existe. Les socialistes existent. Et moi, j'appelle les socialistes à se dire, voilà, voyez, regardez, on veut même vous faire la peau, c'est parce que vous existez. C'est parce que vous êtes une réalité. Donc, relevez la tête, soyez fiers. Deux, c'est l'échec d'une stratégie d'Emmanuel Macron. C'est la reconnaissance que ça ne marche pas, soi-disant, cette aile gauche. Puisque cette note dit, en fait, tout ça, les uns et les autres essayent, ça ne marche pas. Puisque agir de droite fonctionne, il faut maintenant se bouger.
Le sénateur PS Rachid Temal, donc ce matin sur Sud Radio. Franck Dedieu, c'est habile comme réponse?
Alors ça, c'est on pousse le
bouchon un peu loin.
Ah oui, le bouchon un peu loin. Sans, je sais que ce sénateur qui se réjouit d'être invité au bal LREM, il y a quelques années de cela, le PS, c'était quand même pratiquement toutes les régions françaises, tous les départements, des grandes mairies. Et là, ils en sont à se dire, c'est quand même formidable, on reçoit des cartons d'invitation, finalement, on existe. C'est quand même un petit peu, c'est un sophisme au minimum, mais je crois que au-delà de ça, finalement, on voit bien que à partir du moment où Emmanuel Macron a voulu clarifier les positions de chacun, eh bien, il a quand même un petit peu cristallisé, je dirais, les ruptures idéologiques. Et là, finalement, cette histoire de se dire on va créer un agir de gauche. Autrement dit, il y a des sociaux-libéraux, des sociaux-démocrates un peu centristes qui auraient, je dirais, après tout, moi, ça ne me choque pas. Idéologiquement, c'est logique qu'ils rejoignent la République en marche. Et on voit, finalement, quelque part, on a vu avec ADP, par exemple, une sorte de rupture idéologique qui finit par déboucher assez logiquement, et on peut dire que c'est le mérite de clarté d'Emmanuel Macron, assez logiquement, sur des associations, des ruptures, partisane, logique. Vous voyez, vous aviez par exemple, on s'est dit, oh, il y a un bloc bourgeois qui est en train de se former avec, je dirais, le centre-gauche et le centre-droit, et à côté de ça, un bloc, on pourrait dire, je dirais, bloc républicain autour d'ADP. Là, et finalement, c'est assez logique, je crois. Il faut peut-être, je dirais, non pas s'en réjouir par le Parti Socialiste, c'est un peu, mais au moins, il y a une sorte de clarté. Ceux qui croient à la social-démocratie, au social-libéralisme, finalement, ils se retrouveront pas mal. Ouais, monsieur parlait de dépenses publiques qui sont encore élevées en France. Bon, voilà, c'est pas mal. C'est une sorte de gauche, de droite, de centrisme gestionnaire. Et puis, à côté, un groupe par-delà les clivages classiques qui, je dirais, on a parlé de gaullo-communisme, je pense que l'expression est un petit peu forte, mais c'est de se dire, voilà, attaché au service public, attaché à la République, et tout cela va se clarifier sur le plan à la fois idéologique et bientôt sur le plan partisan.
Madame Mostafa Avi, ça vous choque, vous, cette note qui prône la fin du PS, ou en tout cas d'absorber en vue des municipales, hein, tout cela est en vue
oui,
des municipales.
Oui, vous disiez secret de polichinelle. Bon, je pense qu'en effet, c'est un secret de polichinelle que La République En Marche essaye de casser les partis traditionnels. C'est intéressant de voir qu'après, la République En Marche est quand même assez axé sur la droite. C'est intéressant qu'il soit en train de rechercher une façon de se marquer plus à gauche. Après, évidemment que les hommes politiques font de la politique et qu'ils font des alliances et des recherches avant une échéance électorale. Et c'est vrai que la démarche d'Olivier Faure, qui consiste à essayer d'en faire une affaire d'État, paraît un petit peu
vaine. Il parle des barbouzes, hein, parce que c'est le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale qui a sorti
il est quand même dans la commission des investitures, donc c'est quand même pas complètement non plus, anodin. Enfin, il y a une certaine logique que ce soit Jean-Marie Gérier qui fasse cette note-là. Donc, et j'en veux aussi pour preuve que il était à bonne école pendant la campagne présidentielle, il était aussi directeur de campagne. Donc, c'est fait partie de ses attributions.
Et il était proche de Colomb à Lyon.
Donc c'est pas très étonnant finalement cette note. Non, moi je m'interroge beaucoup plus sur ce fameux agir de gauche, parce que je pense qu'en fait, je vous semble peut-être un peu tordu, mais on sait qu'au sein de La République En Marche, c'est pas du tout, il y a des divergences sur cette idée-là, et notamment même au plus haut sommet de l'État. Donc je me pose la question de la finalité de cette note, si c'est pas aussi un coup de pression de la part de l'aile gauche, notamment de Jean-Yves Le Drian qui est cité d'ailleurs dans cette note,
qui comme serait un petit peu celui qui regrouperait tout le monde.
Exactement, qui voudrait justement créer cette espèce d'aile gauche, de l'institutionnaliser. Et je peux vous dire qu'au sein de La République En Marche, c'est pas du tout acquis. Donc je m'interroge sur le bien fondé de cette fuite.
Chez qui à La République En Marche? Ceux qui viennent de la droite, surtout?
Alors, des fidèles d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne veulent pas renouveler toujours cette espèce de clivage gauche-droite. Ils veulent dépasser dans le dépassement du clivage gauche-droite. Donc, alors que si cette note-là, au contraire, accrédite de nouveau, il y a l'aile droite, l'aile gauche au sein de La République En Marche. Donc, je serais beaucoup plus prudente sur la finalité de la fuite.
Votre voisin, Éric Delannoy, fait non de la tête.
Non, enfin, d'abord sur le fond, je pense qu'il y a une très bonne nouvelle, hein. C'est que si Olivier Faure n'a trouvé que ça pour parler de détournement public, c'est qu'on est vraiment très loin des détournements publics. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, ça ressemble un peu à une plaisanterie, parce que objectivement, s'il y a un homme politique comme Gérier...
Qu'est-ce qui ressemble à une plaisanterie? La réaction d'Olivier Faure, si
les hommes politiques ne font plus de politique, ça va être très compliqué. Effectivement, il est à la commission d'investiture, donc je veux dire, il est légitime pour faire cette note. Donc à un moment, moi j'ai une question à poser à Olivier Faure. Est-ce que quand il fait une campagne électorale, il fait du détournement de fonds publics, puisqu'il dit que c'est pas normal que ce gars-là ne s'occupe pas du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Est-ce que lui, député de Seine-et-Marne, je crois, quand il va à Nanterre ou à Dijon pour faire une campagne électorale, il n'est pas dans le détournement de fonds publics? Donc tout ça, c'est une vaste plaisanterie. Maintenant, sur le fond du sujet, moi, je pense que c'est moins une volonté de détruire des partis politiques traditionnels qui se sont détruits tout seuls au passage, plutôt que peut-être une volonté de commencer à réfléchir à structurer des mouvements. Parce que effectivement, La République En Marche, il n'y a pas de divergence de fond, il y a des courants. Alors, à chaque fois qu'on veut décrédibiliser quelqu'un, et comme il n'y a plus de débat possible, on parle de divergence quand on peut parler de diversité. C'est quand même pas tout à fait pareil. Donc, a priori, essayer de structurer des mouvements, c'est important, parce qu'aujourd'hui, il y a effectivement des tiraillements qui sont au sein d'En Marche, pour le coup. Enfin, moi, j'ai une.
Ils vont finir par ressembler aux tiraillements qu'il y a au sein des Républicains
et au sein des PS avant. Mais peut-être, mais c'est peut-être structurellement c'est peut-être l'avenir. Et c'est peut-être comme ça qu'il faut le préparer. C'est-à-dire de se dire qu'on délimite un petit peu les champs de chacun et des autres. Et puis après, il y a des mouvements, il y a des courants qui vont se faire et des rapports de force qui vont se gérer. Aujourd'hui, il y a d'autres sujets de dissension, Le mécénat d'entreprise aujourd'hui, ce que veut faire Darmanin sur la réforme, sur le rabot de la niche fiscale, ça divise considérablement la République En Marche.
On fait une courte pause. Il est 20h40. Le rappel de l'info, Léo Téchère.
Le ministre de l'économie dénonce des incidents à répétition pas acceptables sur l'EPR de Flamanville. Bruno Le Maire demande donc un audit sur ces réacteurs nucléaires nouvelle génération. Celui de Flamanville devait être mis en service en 2012. Il pourrait encore être repoussé alors que son coût a déjà triplé. C'est la première entreprise de CAC 40 jugée pour harcèlement moral. Le parquet de Paris demande 75 000 euros d'amende contre France Télécom, 10 ans après la série de suicides qui avait touché l'entreprise. 1 an de prison et 15 000 euros d'amende également demandés contre l'ex-PDG, l'ex-numéro 2 et l'ex-DRH. L'Agence internationale de l'énergie atomique convoque une réunion d'urgence mercredi prochain. C'est ce que demandaient les États-Unis en pleine crise avec l'Iran. Téhéran a annoncé la semaine dernière avoir dépassé la limite autorisée de ses stocks d'uranium. 79,5% de réussite au bac général. C'est 1,3 point de moins que l'année dernière avant les rattrapages. Mais près de 40 000 candidats n'ont pas eu toutes leurs notes ce matin, des copies n'ayant pas été rendues par des professeurs en grève contre la réforme Blanquer. Et puis cette enquête ouverte en France, notamment pour corruption sportive, des soupçons de matchs truqués dans des petits tournois de tennis, mais des tournois professionnels. Enquête ouverte également pour association de malfaiteurs et blanchiment de corruption en bande organisée selon le parquet national financier.
France Info. France Info, les informés, Noé Da Silva.
La suite des informés jusqu'à 21h. Merci d'être avec nous, Amdam Mostafavi, Franck De Dieu, Éric Delannoy, Pascal Tournier. Nous évoquons cette note qui a fuité La République En Marche, qui cherche à faire venir avant les municipales quelques maires sortants socialistes. Finalement, quand même, Franck De Dieu, est-ce que cette démarche peut aboutir pour les municipales? Parce qu'il faut aussi regarder du côté de la droite et faire attention aux maires sortants de droite.
Bah, effectivement, on parlait de structure idéologique, de dissension au sein de LREM. Il y a, pardon d'être très trivial, mais à quelques mois des élections, on regarde quand même comment se sont comportés son électorat au niveau municipal à l'occasion des élections européennes. Et puis là, vous allez voir que évidemment, vous avez une tentation d'être sous l'étiquette LREM ou assimilé ou effectivement, c'est tout à fait normal. C'est exactement ce qui s'est passé, je dirais, du côté de la droite. Vous regardiez le score de Bellamy dans des villes comme Angers ou comme Melun, et puis vous comprenez immédiatement pourquoi ces maires finalement se mettent à quitter ou du moins à passer un contrat avec LREM. C'est tout à fait normal. Ce qu'il y ait au sein, moi, juste pour terminer, qu'il y ait au sein de LREM des courants, c'est à peu près logique, à peu près normal. À partir du moment où vous êtes très nombreux au sein de l'hémicycle, il est normal qu'il y ait des courants. La question, c'est de savoir est-ce que ces courants sont à nouveau structurants sur le plan idéologique ou pas. Je vois, par exemple, vous avez parlé du mécénat, mais
Ce sont des élus qui veulent sauver leur poste.
C'est la question qui va se poser, c'est par exemple sur la question du CETA et du Mercosur. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, ça dit quelque chose. Cette question-là, elle charrie avec elle des questions idéologiques absolument essentielles. Et là, on verra, pour le coup, si LREM, ce sont des godillots qui finalement vont voter malgré tout, parce que le CETA et le Mercosur, vous avez dans votre circonscription des agriculteurs et une opinion publique qui n'y était pas forcément favorable. On verra. Ça sera une épreuve vérité qui dira à la fois quel est le clivage au sein de LREM et puis aussi quelle est la discipline de parti. On verra.
Je sais ce qu'on va dire. De toute façon, soit c'est des godillots, soit il y a des divergences et c'est pas un parti structuré. Donc de toute façon, dans tous les cas, ça porte à critique. Donc c'est pas la critique qui est intéressante là-dedans, c'est ce qu'on y fait réellement. Aujourd'hui, la spécificité de LREM, c'est que c'est un parti qui n'existait pas il y a 2 ans. Comme il n'existait pas il y a 2 ans, il y a évidemment un besoin d'ancrage territorial qu'il n'a pas. Et je veux dire, c'est pas parce que Emmanuel Macron n'a pas fait son job, c'est qu'il n'y a pas, il n'y avait pas lieu d'avoir un ancrage territorial. Or, le Parti Socialiste détient encore au moins 3 grandes villes, on parle de Lille, Nantes, Paris. Il y a une lutte sur Paris, ça ne vous a pas échappé. Donc, Olivier Faure essaie de sauver sa peau en réagissant comme ça. Parce que, après la déculottée de 2014, il reste encore quelques grandes villes et LREM a besoin d'aller capter ces grandes villes pour avoir son ancrage territorial. Donc, c'est une stratégie politique.
Aujourd'hui, il y a de nouveau le nom d'Édouard Philippe qui circule à Paris.
Mais mais c'est en termes de stratégie politique, c'est très habile que d'aller chercher des maires socialistes pour essayer de les transformer, alors qu'ils sont déjà partis du Parti socialiste dans les faits.
Pascal Tournier.
Il y a deux éléments. Il y a à la fois effectivement le développement de l'ancrage territorial dont a besoin En Marche pour continuer l'aventure d'En Marche. Et ensuite, il y a la définition du macronisme. Et je crois que là, il y a une véritable réflexion qui est à l'œuvre aujourd'hui du côté de La République En Marche pour justement essayer de poser les fondamentaux idéologiques pour ne pas tomber dans les travers du PS, qui est effectivement, on a plusieurs courants qui, au bout du compte, ne s'entendent plus. Je crois que c'est là vraiment ce que cherche aujourd'hui En Marche avec, bien évidemment, Emmanuel Macron, c'est vraiment dépasser ce clivage gauche-droite. Je ne sais pas s'ils vont y arriver, ça c'est une autre question.
Il y a tout un travail qui est fait.
Mais
qui
il y a tout un travail, voilà, il y a tout un travail qui est fait aujourd'hui. Donc, on verra le résultat.
À suivre donc. Déverser sa haine sur Internet, est-ce que c'est bientôt terminé, bientôt impossible même? L'Assemblée nationale a voté la création d'un observatoire de la haine en ligne, une proposition de loi signée de la députée La République En Marche, Laetitia Avia.
Je pense qu'on a réussi à avoir une loi complète qui certes ne résout pas tous les problèmes, qui certes ne va pas réduire à néant la haine sur Internet, mais qui dit une chose très claire, c'est que nous, la représentation nationale, non, nous ne renonçons pas. Et oui, nous lutterons sans relâche contre la haine sur Internet.
Amda Mostafavi, ça ne va pas réduire à néant la haine sur Internet. Ça sert à quelque chose, vraiment ?
C'est difficile. C'est en effet quasiment impossible de. Malheureusement, aujourd'hui, Internet est quand même. Il y a beaucoup d'espaces de discussion sur Internet qui sont pris en otage par les déferlements de haine. Et on sait que chez les plus jeunes, notamment les adolescents, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Après, c'est difficile aussi, après, quand on commence à légiférer sur ce genre de questions, de voir qu'est-ce que ça va faire concrètement. Par exemple, l'Allemagne a adopté une loi quasiment similaire il y a un an et demi. Au début, ça a très mal commencé parce que il y a eu le compte Twitter d'une députée de l'AFD qui a été supprimée, c'est l'extrême droite. Donc là, ça a tout de suite été...
Ça a choqué,
ça a provoqué beaucoup de scandales. Mais après, dans les faits, un an et demi plus tard, on n'est pas complètement capable de dire est-ce que vraiment... il y a moins de discours haineux dans le web allemand ou est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Après, c'est vrai que pour ma part, je pense que c'est important d'envoyer au moins un signal et de dire qu'il y a un espace juridique dans lequel cela s'inscrit.
Franck de Dieu.
Oui, à propos de l'Allemagne, c'est vrai que c'est important de savoir où commence et où se termine la haine. Mais dans le cas allemand, on a vu qu'il y a eu une augmentation du nombre de sujets tabous et avec un risque quand même d'aplanir un peu les discussions. Moi, je pense que là, dans cette loi, et c'est pas tout à fait un hasard, les parlementaires se sont donnés à cœur joie pour déterminer quels sont à la fois leur clientélisme, leur obsession. Alors vous aviez par exemple des origines territoriales et culturelles, il fallait pas choquer. Le terme de, on voulait inclure même le terme de crétin des Alpes. Alors bon, est-ce que c'est haineux, est-ce que c'est pas haineux?
Il faut d'abord définir la haine.
Mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a toujours de bonnes intentions effectivement par rapport aux adolescents, mais à partir de là, quelle est la limite, quelle est la frontière?
Je crois que la définition sur laquelle ils sont appuyés, qui vient du Conseil d'État, c'est autour de l'atteinte à la dignité humaine. Bon.
Après, moi, avec un retrait dans les 24 heures.
Voilà. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est que il y a un dispositif juridique qui est mis en œuvre là aujourd'hui en France, très bien. Mais il faut aussi regarder ce que font les plateformes, parce que c'est quand même elles qui géraient sur des canaux de diffusion.
Sont elles qui sont visées, là.
Et là, il y a un mouvement qui est très intéressant qui se passe aujourd'hui, c'est que les plateformes, que ce soit Facebook ou Twitter, elles-mêmes mettent en place des dispositifs. Et surtout, il y a par exemple une Cour suprême que met en place Facebook. Twitter aussi va regarder précisément les comptes de certains dirigeants politiques. D'ailleurs, Donald Trump a été, touché par cette procédure. Donc, c'est assez intéressant. Parce que là, il y a un autre phénomène qui est en train de se placer. Ces plateformes, ce n'est pas juste des canaux de diffusion. Elles ont aussi la volonté d'imposer leurs valeurs, d'imposer un contenu éditorial. Donc moi, ça, je trouve ça beaucoup plus puissant que la France est en train de mettre en place d'un point de vue juridique.
On va y revenir dans un instant, 20h50. Le rappel de l'info, c'est avec Léo Téchère, pardon.
Et les premiers départs en vacances ce soir, et oui, malgré les gilets jaunes, les radars fonctionneront cet été sur la plupart des grands axes routiers selon le ministre de l'Intérieur. Christophe Castaner en déplacement aujourd'hui dans le bassin d'Arcachon. Il y annonce également La mobilisation de 4000 policiers et gendarmes supplémentaires sur vos plages et sur les sites touristiques cet été. Dieudonné est condamné à 2 ans de prison ferme pour plusieurs fraudes fiscales et notamment pour avoir détourné plus d'1 million d'euros de recettes non comptabilisées de ses spectacles. L'humoriste polémiste est également condamné à 200 000 euros d'amende. Une foule immense, comme tous les vendredis dans les rues d'Alger, les Algériens refusent l'appel au dialogue du pouvoir. Partez, libérez l'Algérie, réclament les manifestants. La capitaine du Sea-Watch va porter plainte contre le ministre italien Matteo Salvini. Elle l'accuse de diffamation après toutes sortes d'insultes. Carola Rackete avait forcé les eaux italiennes samedi dernier avec 40 migrants à son bord. Un premier temps arrêté, elle avait été libérée par la justice. Novak Djokovic qualifié pour les 8e de finale de Wimbledon. Le numéro 1 mondial élimine en 4-7 le Polonais Hubert Hurkacz. Le Français Benoît Paire est aussi qualifié cet après-midi. Et puis, c'est une surprise, le Maroc éliminé par le Bénin ce soir en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Marocains éliminés au tir au but 4-1 après un match nul 1-1 dans le temps réglementaire.
France Info. France Info, les informés, Noé Da Silva.
Merci d'être avec nous les informés et cet observatoire de la haine en ligne qui est donc créé. Éric Delannoy, vous n'y croyez pas?
J'ai pas dit ça. J'ai dit que ça allait être très compliqué de définir.
Ben
oui, parce que, enfin, moi, je reviens toujours à Coluche. Hein. Enfin, aujourd'hui, est-ce que Coluche passerait sur, enfin, on continuerait à l'écouter ou à l'autoriser à diffuser? Non, je voulais revenir sur l'imposition des valeurs idéologiques des GAFA. Juste par anecdote pour commencer, hein, je vous invite tous à faire un test. Vous allez sur la barre de recherche Google et vous tapez idiot et vous allez dans images. Vous allez avoir toute une série de photos de Trump. Et vous allez avoir que ça. C'est quand même assez incroyable. On peut penser ce qu'on veut de Trump, mais ça...
Et du coup, ça veut dire quoi? On ne peut plus utiliser le mot idiot?
Non, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus utiliser le mot idiot, mais ça veut dire que Google, dans son algorithme, a une signification en propre du mot idiot et l'associe à quelqu'un de très précis et donc nous impose un schéma conceptuel ou un schéma de référentiel. Ils font une subjectivation particulière. Pour ce qui est de l'Observatoire de la haine, moi je pense qu'il est utile au moins à un titre. Son objet, c'est de suivre les effets de la loi. Parce qu'on est effectivement sur une loi qui est très subtile dans les équilibres qu'on cherche à mettre en place entre le fonctionnement des plateformes, l'État et la judiciarisation potentielle. Il faut pas qu'on ait sur modération, mais il faut pas non plus qu'on laisse passer des propos qui soient insupportables. Laetitia Avia, qu'elle soit la rapporteure de cette loi-là, c'est normal. Quand vous voyez les propos dont elle a été l'objet sur les réseaux sociaux, c'est juste inacceptable. Quand on parle de propos manifestement injurieux, c'est très facile en ce qui la concerne, malheureusement. Hein, donc, je pense que cet observatoire va avoir cette utilité de pouvoir faire justement une espèce de d'évaluation d'impact de la loi dans la durée sur comment se comportent les plateformes et qu'est-ce qui va à la judiciarisation ou pas. Et donc, à ce titre-là, je pense que c'est une bonne mesure. Pardon, dernière chose, je pense qu'il faudrait aller plus loin. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas travaillé beaucoup plus sur la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux.
Ça, c'est un autre débat qui est très compliqué. Touche à la liberté également.
Oui, mais la liberté de dire n'importe quoi, je suis pas sûr que ce soit la liberté.
Allez, on file aux États-Unis avec Donald Trump.
Non,
il disait pas n'importe quoi.
La fête de l'indépendance américaine hier, la fête nationale du 4 juillet, qui avait des airs de 14 juillet. Donald Trump s'est inspiré d'un défilé auquel il avait assisté sur les Champs-Élysées à Paris à l'invitation du président Macron. Mais la présence militaire ne passe pas. Certains l'accusent de politiser cette fête. D'autres le voient même en dictateur en herbe. On écoute Donald Trump cette nuit.
C'est l'esprit, l'audace et le défi. L'excellence et l'aventure, le courage et la confiance, la loyauté et l'amour qui ont fait de ce pays la nation la plus exceptionnelle de l'histoire du monde. Et notre nation est plus forte aujourd'hui que jamais auparavant. Elle est à son niveau le plus fort maintenant.
Madame Mostafavi, ça ne passe vraiment pas cette fête nationale par Donald Trump avec des militaires, des survols d'avions au-dessus de Washington.
Les Américains sont pas très habitués à ça. Hein. Nous, pour nous, le 14 juillet, c'est classique et c'est banal. Mais lui, par contre, c'est vrai que aux États-Unis, c'est pas courant. Et surtout, c'est vrai que lui, les modèles dont il s'inspire, certes, là, c'est Emmanuel Macron qui l'a inspiré, mais généralement, il est très inspiré quand même par des personnages moins recommandables comme le dictateur nord-coréen ou
Poutine
ou le président turc. Donc il aime ses attributs du pouvoir, il aime l'idée que l'Amérique est une nation avec une armée très forte, il a déclenché toute une série de fronts diplomatiques qui fait que cette démonstration de force, elle est pas tellement pour l'intérieur que aussi pour l'extérieur, pour dire voilà, l'Amérique sera toujours l'Amérique, l'Amérique est le leader aussi en armement et faites attention à négocier avec nous.
Franck de Dieu.
C'est vrai, c'est une démonstration par rapport, alors il a bien sûr, par rapport à l'extérieur, alors il a bombé le torse, évidemment ça il sait faire, mais vous avez parlé dans votre lancement du 14 juillet. Le 14 juillet, c'était la fête de la fédération. Et d'ailleurs, il a dit, moi, j'ai eu un clin d'œil un peu à la France. Pardon de le dire, mais c'est pas une question d'être dictateur. Le rapport entre la nation et l'armée, c'est un rapport fondamental dans une république. Alors, effectivement, nous, il se trouve que c'est plutôt une histoire de rapport intérieur où on se dit finalement, le meilleur moyen de mettre les militaires au pas, c'est le cas de le dire, c'est quand même quelque part de les lier au pouvoir politique et que les citoyens aient un droit de regard sur ce que font les militaires. Moi, je crois que c'est plutôt positif et c'est un facteur républicain, pardon de dire, mais la fête de la Fédération, quand même, elle a abouti à déraciner de l'histoire 8 siècles d'ordre où il y avait la noblesse, le clergé et le tiers-état et qui avait une sorte de monopole militaire, tout de même.
C'était le peuple à l'arbre, le soldat blanc. Je vais peut-être vous paraître un peu... taquine. Moi, je trouvais qu'il y avait un côté très gamin de la part de Donald Trump. Se dire finalement, je suis jaloux. Emmanuel Macron a fait un très beau défilé le 14 juillet. Moi aussi, je veux mon défilé militaire avec mes chars, mon armée, etc. Je trouve qu'il y a un côté très gamin dans l'attitude. Après, le deuxième point que je voudrais juste soulever, c'est ce qui lui a été reproché, c'était aussi d'utiliser ce discours, cette démonstration de force pour, dans le cadre de sa future campagne, de sa campagne électorale. Donc, il est resté, je crois, assez strict dans son discours, mais il y a quand même quelques phrases que vous avez citées à la fin de votre extrait où on voit vraiment qu'il parle de lui, en fait.
Voilà.
Le côté exceptionnel, c'est lui.
Alors déjà, moi, je ne crois pas du tout à la notion de dictature. Déjà, les chefs d'état-major de l'armée n'étaient pas là. Donc, ils sont pas venus et ils sont pas en prison pour autant. Donc, on n'est pas vraiment sur une dictature. On est juste sur un populiste qui est très habitué aux fautes de goût, notamment fautes de goût par rapport à la tradition américaine et qui est en campagne électorale. Point. Je veux dire, qu'on parle de dictature, je pense que c'est très disproportionné.
C'était un président en campagne. Les informés, c'est terminé pour ce soir. Les informés reviennent évidemment demain. Mais l'info continue. Merci de rester à l'écoute de France Info. La une de Marianne.
Comment nos élites livrent l'État aux GAFAM? On voit les administrations françaises qui signent des contrats, beaucoup de contrats, avec les IBM, les Microsoft, les Apple.
On a enquêté là-dessus. Merci à toutes et à tous. Très bonne soirée.